Il est 20h sur France Culture, c'est l'heure de retrouver le rythme et la raison Alain Gerbert.
À fleur de peau.
Histoire de la batterie, chapitre 1.
Maman, papa, ta fla fla gada tra, ta ma cue bon bon.
Admirable dans le jazz depuis les origines, c'est son génie de la confusion, cette merveilleuse et puérile, folle et poétique aptitude à comptabiliser les carottes avec les navets, à mélanger la chèvre et le chou, à marier les parapluies et les machines à coudre. En inventant la batterie, car il l'a réellement inventée en même temps qu'il s'enfantait lui-même il y a une bonne centaine d'années, il a fait se télescoper les tambours des marches militaires et les tambours de l'Afrique, les tambours des champs de bataille et les tambours des brousses, des savanes, des forêts, les tambours qui imposent le silence et ceux qui portent au loin la semence du verbe, les tambours qui séparent et les tambours qui rapprochent, les tambours de mort, les tambours de l'éternel, les tambours de feu, les tambours de la lumière. La batterie, qui accorde à un seul homme le monopole des différents instruments de percussion de la fanfare, caisse claire, grosse caisse, cymbale, symbolise la sédentarisation d'une musique longtemps ambulatoire, la fin aussi d'un certain nomadisme de l'expression et la fixation d'un style dont elle sera désormais, et pas seulement par métaphore, on le verra, le cœur. Dès avant 1850, un certain Cornelius Ward, qui probablement mourut avant d'avoir entendu prononcer une seule fois le mot jazz, avait imaginé un mécanisme actionné par le pied de l'interprète qui permettait de jouer de la grosse caisse tout en gardant les mains libres. C'était un premier pas, mais ce n'était déjà plus, loin s'en faut, le début de l'histoire. Paczynski, vous êtes installé derrière votre instrument. Je vais vous demander d'abord quelque chose de beaucoup plus difficile que d'en jouer. Résumer en quatre mots quelques 400 pages de votre thèse à propos des origines de la percussion.
Écoutez, Alain, je crois qu'on pourrait résumer cela dans ces termes. L'histoire de la batterie, c'est l'histoire du tambour. Et l'histoire du tambour, c'est l'histoire de la frappe. L'histoire de la frappe, on retrouve dans toutes les civilisations anciennes. Qu'on le retrouve aussi bien en Mésopotamie, en Égypte, en Inde, en Chine, en Grèce, à Rome, eh bien toujours le tambour est lié un peu à la mort, au mystère, à l'initiation, à tel point qu'au Moyen-Âge, plus tard bien sûr, le tambour est souvent associé à Satan. Alors on peut dire que d'ailleurs la batterie elle-même, les cymbales sont d'origine chinoise, de la Chine, de Turquie, les toms viennent de Chine, d'Afrique et des Indiens d'Amérique. Le tambour, la caisse claire et la grosse caisse, qu'on en appelait bedon, est d'origine européenne. Tout en fait a commencé vraiment avec les marches napoléoniennes. Parce que le tambour est devenu un instrument soliste à partir de ce moment-là.
On a esthétisé énormément le geste. Et en même temps, il ne faut pas oublier que ça avait une fonction très particulière, c'était de pousser les gens à aller au casse-pipe. Hein. C'était très exactement l'équivalent du vin et de la gnôle pour les poilus de la guerre de 14.
Exactement. Par exemple, la batterie d'Austerlitz, cette batterie qui fut composée sur l'ordre de Napoléon Ier au lendemain d'Austerlitz, seuls des régiments ayant pris part à cette bataille avaient le droit de l'exécuter. C'est la batterie d'Austerlitz avec des petits coups, des coups de baguette, ceci. Puis vous avez la marche des éclopés, appelée également la boiteuse, était composée aussi sur l'ordre Napoléon Ier, mais cette fois pour faire marcher les traînards et les éclopés. Il y avait le rigodon, tout simple. Alors le rigodon était une exécution assez cocasse où il y avait donc joué un coup, un rat de 5, un rat de 5, un rat de 3, un rat de 3, vous allez voir. Alors à grande vitesse, ça donne quelque chose à peu près comme ceci. Alors, il y avait le rigodon d'honneur. La légende raconte que c'était joué par des manchots. C'est-à-dire un manchot qui avait perdu un bras droit jouait avec la main gauche et l'autre qui avait perdu le bras gauche jouait avec la main droite. Et jouait toutes ces techniques de tambour étaient jouées, notamment ce rigodon d'honneur, à deux instrumentistes.
Ce serait sans doute de très mauvais goût, mais c'est quand même la réalité historique de dire qu'après ça, la batterie s'est développée dans les cirques au 19e siècle.
Alors, justement, dans les cirques, il leur lève, il y avait toute une série de figures qui existaient.
Parce qu'il s'agissait d'accompagner des numéros,
alors, hein,
de les souligner plus exactement.
Tout à fait. Alors, en accompagnement des figures, alors il y avait évidemment, on rentre dans des petites mélodies, des petites choses qui étaient jouées. Alors, caisse claire, grosse caisse, bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le démarrage de la base fondamentale de la batterie, c'est-à-dire la grosse caisse. Avant que la batterie pratiquement n'existe, celui qui jouait la grosse caisse dans les marching bands était quelqu'un qui était considéré comme un instrumentiste primordial, beaucoup plus que celui qui jouait la caisse claire. Celui qui jouait la grosse caisse était un homme qui était déterminant, un peu comme le timbalier dans un orchestre symphonique, qui est le deuxième instrumentiste, qui est vraiment le deuxième grand patron de la maison. Eh bien, la grosse caisse, c'est vraiment quelque chose, c'est un battement formidable et qui donne le tempo, qui donne toute la pulsation. Cette grosse caisse que nous jouons aujourd'hui au pied droit, avec la combinaison grosse caisse, caisse claire, il y avait évidemment ces farandoles, ces petites, enfin, des tas de cakewalks, etc. Alors évidemment, il y avait des choses où on accompagnait de cette manière-là, où tout était écrit. Attention, il n'y avait aucune improvisation. Il y avait des danses, des marches, etc. Puis petit à petit, évidemment, le fait de jouer de cette manière-là a fait que finalement, les musiciens ont commencé à syncoper la musique, à phraser d'une certaine manière. Et les marches écossaises sont un écho, et les marches américaines, de l'armée américaine, sont un écho de ça. Alors on entend des choses qui sonnent d'une certaine manière et qui donnent un certain déhanchement très loin des marches tambours françaises. Et c'est devenu progressivement une marche en utilisant le roulement que l'on appelle le bezel, c'est-à-dire un coup de chaque main où on fait gratter la baguette par un certain nombre de coups qui sont indéterminés sur la peau. Et quand on alterne main droite, main gauche, comme je viens de le faire, lentement, et à grande vitesse, ça donne... Alors le problème, c'est que ce bezel a été adapté, avec toute la technique des tambours militaires, a été adapté au début de l'accompagnement de Nouvelle-Orléans, qu'on trouvait dans les batteurs Nouvelle-Orléans, qui accompagnaient avec cette fameuse grosse caisse.
L'idée étant d'obtenir, disait Buddy Rich, le bruit d'un papier de soie qu'on déchire.
Alors c'est vraiment ce roulement bezel. Alors, avec l'accompagnement en grosse caisse, vraiment Nouvelle-Orléans, ça faisait...
On va se reporter, si vous voulez bien, au tout premier morceau du tout premier disque de jazz jamais enregistré. Nous sommes en 1917. L'orchestre est l'Original Dixieland Jazz Band et le batteur s'appelle Tony Spargo ou Tony Barbaro, c'est le même. C'était en fait, écrira plus tard Gunther Schuller, le seul véritable improvisateur de ce groupe. Quant à la composition, elle s'intitule Livery Stable Blues. Stable, c'est l'étable, faut-il le rappeler, Livery Stable Blues, l'Original Dixieland Jazz Band en 1917. Et c'est un enregistrement qui fait tâche et qui est pain béni parce qu'on y entend distinctement des caisses. Et les caisses, à l'époque et jusqu'en 1927, 10 ans plus tard, et en particulier la grosse caisse, étaient des instruments largement interdits de séjour dans les studios. Pourquoi ? Ben parce que leurs vibrations faisaient sauter les aiguilles avec lesquels on enregistrait des disques. Donc là, on a une petite chance d'entendre ce que pouvait être le style de batterie d'un percussionniste à la fin des années 10.
Et le même musicien, lorsqu'il défilait, il jouait par exemple la grosse caisse, mais le soir, il pouvait très bien jouer du violon. Et en fait, ils arrivaient en défilant, ils jouaient la caisse claire, le tambour et les cymbales, et le soir, eh bien, ils jouaient une batterie en étant assis. Et là, il y a un événement considérable dans l'histoire de la batterie. Parce que le fait que les hommes... Un homme est décidé de s'asseoir, alors qu'avant, il marchait continuellement. On peut presque dire que le début de l'orchestre de jazz vient du fait qu'un batteur est décidé de s'asseoir en faisant, disons, cette marche, ce fondement de la vie qu'est la grosse caisse. Et en fait, cette grosse caisse, je pense à Baby Dodds, donc, puisque nous allons en venir à Baby Dodds et à Zutty Singleton, qui sont les deux grands batteurs Nouvelle-Orléans. Il faut bien dire que j'ai sous les yeux les mémoires, quelques mots de Baby Dodds. Je trouve ça tout à fait parlant. Voilà, il disait, j'ai d'abord appris dans les rues. C'est-à-dire, dit-il, à savoir marquer un temps particulier au bon moment. Il dit, plus tard, j'ai joué du tambour. C'était une fanfare à ce moment-là. Il y avait des piccolos, des clarinettes. Eh bien, c'est ainsi que j'en vins à la conclusion instinctive que chaque coup, même ceux sur le fût, sur le woodblock ou sur n'importe quoi d'autre, sur les cymbales, doit correspondre à la mélodie. Et je crois que c'est là le fond de l'histoire de la batterie. Vous avez décidé, Alain, de passer Limehouse Blues, qui fait et en fait, à un moment, on entend un solo de Zutty Singleton et on entend un roulement en buzzle. Et bien, lorsque l'on entend ce roulement, quelqu'un qui écoute le disque, il se dit, mais bon, le batteur joue des roulements tout le temps, ça n'a absolument aucun intérêt. Et bien, en fait, si on écoute bien, on entend... dire en fait qu'on entend exactement la mélodie pa 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 da 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 da. Thank you.
Limehouse Blues, c'était à Paris, à une époque où depuis longtemps les ingénieurs du son s'étaient accoutumés aux batteurs, octobre 1952, et vous aurez reconnu aux côtés de Zutty Singleton, Sidney Bechet, il y avait un troisième larron, plutôt une troisième larronne, en la personne de Lil Armstrong qui jouait du piano.
Ces solos de batterie sont venus beaucoup plus tard, parce qu'au début, il n'y avait que des breaks de deux mesures, à peine. Le solo lui-même est une conséquence, mais l'accompagnement est quelque chose de tout à fait fondamental. Le solo n'est venu que bien plus tard. Mais on dit aussi que ce premier solo de batterie est né parce que le rideau d'un théâtre ne s'était pas ouvert et qu'un batteur absolument... l'orchestre était affolé, le chef d'orchestre était affolé, et le batteur avait une idée géniale d'intervenir tout à coup pour faire patienter le public parce que le mécanisme ne marchait plus. Il a commencé à jouer. Et il a eu un tel succès quand le rideau s'est débloqué, que le rideau s'est ouvert, qu'à ce moment-là, il y a eu une extraordinaire explosion merveilleuse dans la salle. Et alors, on a décidé tous les soirs de refaire le même numéro.
Je voudrais, pour que les gens s'y retrouvent, que vous leur donniez une petite idée de ce qu'ils entendent dans les disques des années 20, c'est-à-dire quand le batteur n'avait précisément droit de se servir que des bords de la caisse ou du flanc de cette même caisse, de la cymbale à condition de l'étouffer très vite. Et bon, vous n'avez pas de woodblock là, mais les bords de caisse en feront office.
Donc en fait, il y a le shuffle avec cette phrase que l'on entend pim, 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 et toute la base de type d'accompagnement qu'on trouvait sur les woodblocks, sur les bords de caisse. Alors ça, c'était fait de cette manière-là, mais en réalité, quand les orchestres étaient vraiment en situation non d'enregistrement, mais dans les endroits publics, eh bien finalement, on entendait des parts extrêmement grosses, ou la grosse caisse, des parts énormes, où la batterie jouait. D'ailleurs, on ne considérait pas ça comme un musicien. Le batteur, c'est la première chose qu'il faut dire. Le batteur était quelqu'un qui faisait du bruit, et c'était quelqu'un qui gênait les autres. Donc il faut bien comprendre ça, c'est qu'à partir du moment où le musicien considère le batteur comme un interlocuteur valable, il a fallu attendre de très nombreuses années. À partir du moment où il a commencé à suivre les grilles, c'est-à-dire le schéma vraiment rythmique d'une façon rigoureuse, où il a vraiment fait tout un travail vraiment musical, on a considéré
même
que...
Même souligner les passages harmoniques,
même
en certains
souligner
cas,
les passages harmoniques,
avec différentes couleurs.
C'est ce que raconte Joe Jones. Il dit qu'en fait, on illustrait le cinéma muet, on faisait plein de gadgets, on imitait le bruit du tigre, on faisait plein de choses différentes. Mais en fait, au bout du compte, il y avait quand même un bruiteur, disons un danseur de claquettes. Ils étaient tous des danseurs de claquettes, les premiers batteurs. C'était des gens qui s'exprimaient avec le corps, avec les membres inférieurs. Enfin, pas avec le pied gauche, nous le verrons plus tard. Mais avec le corps entier, c'était des gens qui ne se posaient pas des questions esthétiques. Ils étaient là pour le plaisir de jouer, pour la joie de jouer, mais également pour enterrer les morts. Bien sûr, vous le savez que la Nouvelle-Orléans, et c'est tout, toute la magie de la Nouvelle-Orléans, et je crois que c'est cet enterrement, on joue le tambour sans timbre. Cette sonorité a de profondément dramatique.
Avec les mains crêpes sur la peau.
Voilà, il y a quelque chose de terrible, parce que c'est les racines les plus profondes de la nature humaine qui sont là. Et ensuite, il y a cette chose magnifique, que lorsque l'on a enterré la personne dans un adieu, il y a un temps d'arrêt, et ensuite, eh bien, il y a le « When the Saints Go Marching In » ou « Go Down Moses » ou tous les merveilleux Negro Spiritual, les merveilleuses marches. Et à ce moment-là, le tambour a une vie complètement différente. Il prend le même instrument, prend une dimension complètement différente. Il entraîne les gens et il entraîne les gens vers la joie d'une vie éternelle.
And the snare drum player, he takes the handkerchief out of the snare and roll up so the members can form in line to swing back to the hall playing Didn't He Remember?
toutes ces figures dont on a parlé, le flagada, le patafla, correspondent à une figure que l'on entend quand on dit flagada. Quand on dit patafla, on a un son qui correspond à ce que l'on dit. Et les Américains, quand on dit paradiddle, ou paradiddle, ou ce qu'on appelle en français les moulins, droite-gauche, droite-droite-gauche, droite-gauche-gauche, qu'on retrouvera dans toutes les figures de toute l'histoire du jazz, on retrouvera dans les figures d'Art Blakey beaucoup plus tard, eh bien on retrouve déjà des rats de trois, tout un mélange dans tout le tambour de la Nouvelle-Orléans.
On ne va pas se quitter avant d'avoir évoqué la figure tutélaire du jazz de l'époque, de la batterie de l'époque, qui était Bebe Dodds.
Bien sûr, Bebe Dodds est le premier grand batteur de l'histoire du jazz. Il y en a eu d'autres, bien sûr, avant. Vous avez cité Tony Spargo, il y en avait d'autres encore qui sont des noms complètement oubliés. Et quand je vois, je suis un peu plongé dans cette histoire de la batterie, et quand je vois qu'il y a des noms qui étaient des batteurs qui étaient magnifiques et qui jouaient d'une façon profonde, magnifique, et dont on a peu de traces, ou très peu, qui sont aujourd'hui complètement oubliées. Mais Bebe Dodds est celui qui est resté.
Il faut bien dire que Bebe Dodds, dans ses plus grands enregistrements, on l'entend pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, très peu et très mal. Ses enregistrements sont ceux de King Oliver et de Louis Armstrong.
Je dois dire aussi qu'il est resté pour la postérité, peut-être aussi pour autre chose, parce qu'il accompagnait donc, donc le tambour militaire, mais qu'il a été un des premiers aussi, on le dit, la légende le raconte, qu'il a été un des premiers à jouer sur la cymbale, déjà le shabada, des petits coups de shabada sur la cymbale. En fait, la batterie était illustrative. Et ça, c'est tout à fait quelque chose de tout à fait particulier et qui reflète une époque. Et c'est, je crois que c'est là qui est magnifique quand on réentend ça. On a l'impression de voir défiler devant nous toute une époque vraiment déjà largement révolue, mais dont le phrasé, et c'est ça qui est merveilleux, ce phrasé est encore le phrasé du jazz.
Et puis, c'est quand même Bebe Dodds, et grâce à cela, nous avons beaucoup de chance, le premier musicien de jazz qui aura fait un disque de démonstration sur son propre style. Il s'est vengé de tous ces enregistrements sur lesquels on l'entend à peine.
Tout à fait, c'est extraordinaire, c'est incroyable. C'est un enregistrement où il commente, un peu comme le fera plus tard Joe Jones, mais il commente donc dans les enregistrements la façon dont il joue son chimie, son roulement, qui dans Philly Joe Jones, c'était un fanatique qui se disait, oh mon Dieu, Philly Joe Jones, oh, il faut que je travaille le roulement de Bebe Dodds, le chimie de Bebe Dodds.
Bebe Dodds avec Albert Nicolas au moment où il faut que l'on se quitte. La batterie de jazz, chapitre 1. Cette histoire illustrée vous était proposée par Georges Pagzinski et Alain Gerbert. Elle n'aurait pas été publiée sans l'inestimable contribution de Marie-Cécile Mazzoni, qui en assurait la mise en page, et de Gilles Pesera, l'imagicien sonore. Demain, deuxième chapitre de la cymbale Charleston de Kaiser Marshall à la grande cymbale de Kenny Clarke. Bonsoir à tous.
Nous retrouvons le rythme et la raison demain à 20h.